Jean-Jacques Schoul qui publie son dernier roman, Entrée des fantômes aux éditions Gallimard, et Benoît Jacquot qui met en scène Werther, l'opéra de Jules Massenet. Jusqu'au 4 février, c'est à l'Opéra Bastille. Peut-être quelques réactions par rapport à ce qui a pu être développé, soit dans les titres du journal Avenir, soit dans les titres du journal de la culture. Jean-Jacques Schoul.
La mode au musée. Je trouvais ça extravagant qu'on mette cette chose fugitive de l'air du temps, qu'on la mette au musée. Enfin, ça remonte, c'était il y a déjà 15 ans ou quelque chose comme ça, on a fait un musée de la mode. Je trouve ça absurde. Enfin, on muséifiait tout. Et la mode, ça tient pas debout.
C'est-à-dire, c'est autre chose que la mode. C'est plutôt une réflexion sur la haute couture. Parce que y a quand même la haute couture fait partie de la mode. Mais là, c'est vraiment sur la haute couture,
art,
la restauration.
On va faire on va faire un art de tout. Alors, laissons-le. C'est quelque chose qui vient de la rue, qui est très friable, fugitif. C'est ce qui fait sa beauté, à mon avis. Et c'est absurde. D'ailleurs, la mode est devenue beaucoup moins intéressante depuis que c'est devenu. Il y a tellement d'argent dessus. Et la muséification. Et donc, c'est une folie. Je m'excuse, le mot est un peu. Commence à être un peu usé, mais c'est un oxymoron, la mode au musée.
Benoît Jacquot, je vous vois sourire. Une réaction par rapport à d'autres titres, chiffres.
Non, je souris de la citation qui fait du mot oxymoron. Ça ne m'étonne pas de Jean-Jacques. Mais
Unifrance qui impute. Alors là,
ce qui me frappe pour le communiqué que vous avez fait d'Unifrance, là, c'est que je comprends absolument rien à ce qu'il a raconté là.
Ah, zut.
Ça veut dire c'est la part des films français à l'étranger.
Exactement.
Qui aurait diminué et qui aurait été auparavant très très.
Elle a considérablement diminué par rapport à l'année dernière, par rapport aux chiffres de 2008.
Mais j'ai cru entendre que ça changeait d'avant et qu'avant, c'était les films français qui étaient en tête de toutes les exportations, non ?
Non, ce que je disais, c'était que avant, les films français... non, ça c'est sûr. Non, avant, les films français étaient plus vus en Europe. Et maintenant, ce sont les États-Unis. C'est aux États-Unis que les films français sont le plus vus. Voilà, c'est juste une comparaison des marchés qui sont investis par les films français.
Non, voilà, moi, d'ailleurs, la plupart du temps, les communiqués de chiffres comme ça, de fréquentation savants, ça devient extrêmement.
Surtout qu'aujourd'hui, c'était assez complexe, puisque dans un journal, on nous disait que c'était positif, et dans le même, avec les mêmes chiffres, on nous disait que c'était complètement négatif. Voilà, c'est dans quels journaux, Raphaël ?
Alors, dans le Figaro, on était plutôt optimiste, et dans le quotidien Les Échos, on était plutôt pessimiste.
Ça, c'est ce qu'on appelle la crise en général, qui provoque toujours ce genre de... d'amphibologie, tiens, je vais prendre un...
Ça va être...
Un partout.
Un partout. Voilà. On va continuer sur ce registre des figures de style. Juste, quand même, le rapport qui est un petit peu alarmant, c'est le fait que Unifrance, par exemple, imputerait cette chute des chiffres aux films d'auteurs. Toujours cette image des films d'auteurs. Quel commentaire vous pouvez faire à cela, Benoît Jacquot ?
Mais j'ai jamais été très très militant de ce qu'on appelle, enfin d'abord de cette formule film d'auteur et de ce que ça recouvre en général. Voilà, moi c'est pas en tout cas ça qui m'a donné envie de faire du cinéma et je fais pas du cinéma moi pour être un auteur de film.
Le rendez-vous.
Plateau 1 avec Jean-Jacques Schoul et donc Benoît Jacquot. Jean-Jacques Schoul, écrivain, avec un premier texte paru en 1972, Rose Poussière, à peine un livre, dites-vous, suivi d'un mince texte, ça c'était Telex numéro 1, puis Ingrid Cavan, donc des années beaucoup plus tard, en 2000, pour lequel vous obteniez le prix Goncourt, et à nouveau 9 ans de silence, avant la sortie donc d'Entrée des fantômes, édition Gallimard, qui paraît aujourd'hui donc pour la rentrée 2010. Quel est l'emploi du temps durant toutes ces années ?
Pardon.
Quel est l'emploi du temps durant toutes ces années ? 9 ans entre Ingrid Cavan, des temps de lecture, des...
Je sais pas, c'est un... puisqu'on va parler de musique, on est aussi une émission sur la musique. En musique, dans les partitions musicales, dans la musique, le silence a une valeur à part entière, enfin en soi. J'ai marqué les silences un peu longs, mais en fait, c'est des silences comme en musique. Et après tout, je me dis des fois que si ces petits livres ont parfois une toute petite résonance musicale ou pas, enfin, une sorte de résonance, c'est peut-être aussi, ils le doivent peut-être au silence qui les entoure. Je ne suis pas dans la production régulière. Et c'est toujours mieux. Je peux aussi dire que, répondre que, ne publiant, faire un compte, je publie un tous les. Mettons à peu près un tous les 10 ans. Si j'en publiais un rythme régulier, un tous les deux ans, ça serait des livres un peu différents tous les deux ans. Moi, j'en publie, je garde du temps pour réfléchir. Enfin, comme j'aime bien différentes tonalités, différents styles dans un livre, c'est comme si j'en publiais. Enfin, ils sont un peu variés. Et je fais le calcul un peu présomptueux que dans chaque livre, il y en a cinq. Donc, ça revient à peu près au
même. Ça revient exactement au même. Donc, l'actualité, c'est Entrée des fantômes, paru chez Gallimard. Un roman qui a la particularité d'être en deux temps, puisqu'on va compter en temps musicaux. D'abord, premier volet intitulé Le mannequin, une tentative en forme de roman noir autour d'une figure féminine. Un mannequin, clairement évoqué comme une émanation somnambulique comme ça de Kate Moss. Deuxième volet, deuxième récit, La nuit des fantômes, c'est le titre. Votre apparition, spectrale en la personne de Charles, le narrateur écrivain, un récit éclaté, boiteux, travaillé par le cinéma, la littérature, parfois la peinture, traversé par une série de fantômes et par votre propre littérature, puisque vous revenez sur Telex, vous revenez sur Rose Poussière et sur Ingrid Cavan, donc le troisième roman. Et ce récit-là va commencer là où s'achève la première partie, et on va prendre des éléments qui sont, chaque fois qu'ils vont revenir dans le texte, comme étant les éléments déclencheurs pour pouvoir se mettre à écrire. Alors, on en a listé trois avec Manu Farine, il y en a plusieurs. Le premier, il est fondateur, c'est comme ça que s'ouvre La nuit des fantômes, c'est la proposition qui vous est faite par un cinéaste, Raoul Ruiz, d'interpréter le rôle du chirurgien dans un remake du film muet Les mains d'Orlac. C'est-à-dire, alors, très très vite, Les mains d'Orlac, c'est un récit fantastique dans lequel un chirurgien greffe à un pianiste les mains d'un assassin. Mais vous passez, pendant bonne partie du roman, à vous demander ce que Ruiz vient chercher chez vous. Alors ça pourrait être votre silhouette, ça pourrait être votre apparence, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord dans le cinéma de Ruiz, dans ses effets baroques, fantomatiques, dans sa manière de déconstruire la narration, un écho à votre propre littérature ?
Je me suis pas beaucoup posé de questions sur le cinéma de Ruiz, pour lequel j'ai pas une affinité particulière, ni le contraire d'ailleurs. Mais je me suis surtout interrogé sur sa cette drôle de proposition, et puis sur ce qu'il avait pu voir en moi. Et puis j'ai pensé aussi que j'avais, oui, l'apparence, je dis aussi qu'il me propose un chirurgien, alors je fais une allusion, en fait, c'est un peu métaphorique, de le fait que j'écrive un peu avec des morceaux rapportés, je me vois un peu comme quelqu'un qui est un chirurgien, pas du tout un auteur avec un grand A, mais quelqu'un qui est un peu un ajusteur-monteur, qui sera pour le chirurgien,
qui je coupe, m'amuse avec tout réadapte,
ça. Hein. En fait, c'est un peu une simulation, une jonglerie, j'ai jamais été très convaincu, il y avait un doute, mais j'ai jamais été très convaincu que Ruiz pensait vraiment à moi pour faire ce rôle.
Le fait qu'un cinéaste fasse appel comme ça, même si c'est une fiction, puisque Ruiz pour l'instant n'a pas donné lieu à ce contrat, le fait que ce soit un cinéaste qui fasse appel comme ça pour un chirurgien dans ce contexte-là à un écrivain comme Jean-Jacques Schoul, est-ce que ça vous étonne, Benoît Jacquot, ou est-ce qu'il y a véritablement une dimension proprement plus que romanesque, cinématographique, dans la personnalité et dans les romans de Jean-Jacques Schoul, vous qui êtes un de ses lecteurs et que vous connaissez particulièrement.
J'ai un peu de mal à considérer Jean-Jacques comme un personnage parce que je le connais depuis très très longtemps, qu'on vient à peu près du même monde, qu'on a traversé les mêmes mondes, qu'on a connu beaucoup beaucoup de gens et surtout de femmes d'ailleurs tous les deux. Non, attendez, ça ne veut pas dire...
Ah non, on a voilà. Personne n'a rien dit. Antiphrase.
Et donc, pour moi, c'est une personne, c'est pas un personnage, et je vois pas... Enfin, puis c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment de l'amitié, donc avec qui... Enfin, je lis ses livres, j'aime ce qu'il écrit, ça m'intéresse de toute façon, donc c'est quelqu'un... C'est quelqu'un d'actif, je ne sais pas, c'est pas, vous parliez de ses silences et ça, mais ce sont probablement des temps extrêmement actifs pour lui. Donc, pour moi, c'est pas le personnage, l'éternel, dont il joue sans doute, malheureusement, je n'ai pas...
Ah oui, dans le livre, il est question de ça. Hein.
Donc, mais je suppose que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il joue nécessairement avec l'image qu'on donne de lui. Mais enfin, moi, je peux difficilement considérer Jean-Jacques comme l'image... qu'on peut donner de lui et de laquelle il peut jouer en s'amusant. Sûrement.
Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Parce que vous dites que vous venez des mêmes milieux. Qu'est-ce que ça signifie, Jean-Jacques Schoul ?
Des milieux qui sont les milieux qui décrit. Moi, c'est la première personne qui m'a parlé de Jean-Jacques, c'est Jean Eustache, qui se baladait. il faut bien le dire, qui se baladait avec grosse poussière à la main. Donc,
Jean-Jacques Choule, Jean Eustache, qui revient justement dans les dernières pages.
Troisième fantôme. Il y a trois fantômes. On a beaucoup dit qu'il y avait des fantômes partout. En fait, il y en a trois vraiment qui arrivent à la fin.
Qui arrivent à la fin, dans la dernière partie.
C'est
un personnage de Gilles.
Qui font l'entrée à la fin. Ce sont deux fantômes littéraires. Un que je rencontre pas loin d'ici, sur le pont de Bir Hakeim, où je suis allé, je voulais repasser à un endroit où j'avais fait un reportage sur Jarmusch. Je reviens là en pleine nuit, vers 4 heures du matin, et je rencontre le personnage de Lafcadio. J'ai fait l'hypothèse, enfin, je me suis amusé à faire l'hypothèse que, mettons, chez Gallimard, dans le salon bleu, enfin, dans les salons de Gallimard, là où sont entreposés des livres, je ne dis pas chez Gallimard, ça pourrait être là, quoi. Les pages s'ouvrent et les fantômes s'évaporent, les personnages s'évaporent, s'incarnent, si on peut dire, en fantômes, et vont se promener dans la nuit. Et à certaines personnes, ils peuvent apparaître. Donc, je rencontre ce personnage de Lafcadio là.
Donc, puis, extrait de Gide.
Oui, puis en plus, je continue mon périple et je reviendrai très tard à l'hôtel Cos désert. Je descends avec l'ascenseur jusqu'à la piscine déserte. Quand je remonte de dessous la terre, je croise Tropman, qui est le personnage du Bleu du Ciel de
Georges Bataille.
De Bataille.
Ah oui, non, mais on croise.
Et c'est. Puis Jean Eustache, finalement.
Dorothy aussi.
Que dis-tu?
Et Dorothy.
Dorothy, leur esprit. Oui, il y a Dorothy et Tropman. Dorothy. Enfin, non, je croise l'esprit du livre et bien entendu l'esprit de Dorothée qui est très fort. Et en quelque sorte
le troisième fantôme
avant cela, je veux dire que il se produit quelque chose, c'est que mon double, ce que vous voulez, enfin ce narrateur qui est quelqu'un d'assez faible et indécis, ayant rencontré ces deux personnages dans la noirceur un peu forte, s'en trouve un peu investi et donc prend une force de ces fantômes là ainsi que de Jean Eustache, que là alors c'est un fantôme non littéraire. Et les trois vont en quelque sorte me hanter vers la fin du livre et me donner une sorte d'assurance et de force que je n'avais pas. Au point qu'ils vont m'amener dans une maison de jeu où je vais à la fois toucher le jackpot, être dans une assurance énorme et toucher le jackpot par l'argent, la fille qui se trouve là, que je monte, et ensuite il semblerait que je vais pouvoir arriver à écrire. C'est un hommage, au fond, puisque ce sont des fantômes littéraires sortis des pages d'un livre, c'est un hommage enfin, à la force de la fiction possible et de la littérature.
Alors tout à l'heure, il était question qu'un cinéaste fasse appel à vous pour jouer l'acteur, mais cette question de l'acteur retraverse le livre, Manu Farim.
Oui, parce que cette possibilité de faire l'acteur donne lieu à un bref moment, à une digression sur le théâtre, où vous annoncez donc vouloir jouer le rôle de Richard III dans un petit théâtre parisien, et suit un passage sur votre possible rapport au théâtre, page 113. Vous dites « Je lui sortais mon habituel refrain que j'avais été nourri des fantômes du cinématographe et que toute cette pesante épaisseur, cette présence sur scène et ses cris, et puis ses planches, je préférais le bitume. » Qu'est-ce que vous reprochez au fond au théâtre, Jean-Jacques Choule, hein ? Et à quel théâtre ?
Alors même que vous voulez jouer Richard III et que vous demandez le numéro de téléphone du comédien qu'il a immortalisé en 84 à Georges Lavaudant.
Oui, Ariel Garcia Valdez, ouais. Oui, que j'ai rencontré, effectivement. Au théâtre, je ne reproche rien au théâtre. J'ai une sorte d'incompatibilité, qui c'est dû à moi aussi, c'est peut-être un handicap de ma part. Je ne supporte pas la présence physique des gens sur scène. Je ne supporte pas les publics, je n'aime pas être dans un public. Je crois que je suis trop voyeur. Pour être un spectateur, voyeur et spectateur, c'est pas la même chose. Et je supporte surtout pas d'être dans une audience et un public. J'aime bien les foules, mais pas les publics. J'aime pas cette présence, cette forte présence physique. J'ai trop été nourri par des fantômes pour me trouver face à des gens en chair et en os qui crient. Et etc. C'était aussi simple que ça. C'est ma faute. Enfin, c'est pas. Je n'ai rien contre. Je peux pas attaquer le théâtre. Ce serait idiot.
Benoît Jacquot, un commentaire. Vous qui avez non pas mis en scène de théâtre, mais porté des mises en scène de théâtre à la télévision, des gens qui crient une vision du théâtre.
En tout cas,
vraiment, le portrait à charge revient régulièrement dans le livre.
Mais non, mais est-ce que ce dont parle Jean-Jacques là, je crois, c'est des théâtreux.
Ça n'a... Non, c'est le théâtre radicalement le
ouais,
théâtre.
Mais
non, c'est le ouais, théâtre de façon. Mais les théâtres n'en parlons pas. Mais même le meilleur théâtre que je peux savoir un peu reconnaître, j'ai vu un très bon théâtre allemand. C'est radicalement, je suis.
Mais les mises en scène de Bergman, par exemple, aussi bien de théâtre que d'opéra,
je ne les ai pas vues.
T'aurais été fou. Voilà. Et probablement, enfin bon, c'est toujours des mises en scène de cinéastes.
Non, je supporte pas quelqu'un en chair et en os devant moi qui veut attirer mon attention.
Oui, mais c'est pas le cas dans le meilleur des cas. ne cherche pas à attirer ton attention dans le meilleur des cas. Le grand théâtre, c'est la même chose. Au fond, c'est le même noyau que tout ce que tu aimes au cinéma.
C'est pas des fantômes.
Mais si, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si.
Tu te rappelles au début du Voyage au bout de la nuit, là, quand il sort du Lodge Cabin, qui est un peu le même grand hôtel qu'il y a dans l'América. Je fais un clin d'œil vers toi puisque tu as travaillé sur América de Kafka. Et donc, quand il sort de ce grand Lodge Cabin, puis qu'il va dans Broadway, il rentre dans un cinéma et il y avait des fantômes plein l'écran. Tu peux pas dire, il y avait des fantômes plein la scène quand tu rentres dans un théâtre.
Oui. Bien sûr que oui. D'ailleurs, il y a des fantômes partout. Ici même, il y en a sûrement.
Et même des fantômes à l'opéra. Ouais. Ça, c'est même le titre. Ne vous convaincra pas.
Non, mais il fétichise le cinéma, voilà.
Eh bien voilà, donc c'est le cinéma contre le théâtre.
Et ça lui sert, c'est ça le truc. C'est que
ça le sert notamment en se présentant, dans ses requêtes auprès de Georges Lavaudant pour avoir le numéro de cet acteur.
Richard III, oui.
Pour jouer Richard III, vous portraiturez en une sorte d'écrivain qui tombe du côté du burlesque. Enfin, il y a vraiment les passages les plus comiques, c'est justement dans votre rapport au théâtre et cette obsession à vouloir jouer Richard III. Juste, on a une question d'une autre romancière, c'était Marie Dariussec, qui a une question pour vous très précise en relation avec le livre sur le plagiat qu'elle a écrit.
J'ai lu votre livre et il y a dedans une expression merveilleuse, c'est « la nuit farfelue ». Est-ce que je peux vous la plagier, s'il vous plaît ?
Ah, j'adore être plagié. Moi, je suis pour le je plagie moi-même beaucoup. Et je vais profiter. Là, je suis devant quelques dizaines de milliers d'auditeurs pour me confesser et soulager ma conscience. J'ai volé, non seulement plagié, mais j'ai volé une demi-page à Philip Roth, non pas d'Exit Ghost, mais d'Opération Shylock dans Entrée des Fantômes. Et je vole, je sample, je cite le maximum. Moins il y a de choses de moi, plus je suis content. Dans ce livre, Entrée des Fantômes, j'avoue qu'il y a des emprunts et des vols à Rimbaud, à Borges, enfin à tout le monde. Et oui, alors donc, c'est réciproque. Non seulement vous pouvez, mais c'est un devoir. Je vous demande de me plagier. Plagiez-moi, prenez tout ce que vous voulez.
Alors, vous dites qu'il y a moins il y a de choses de vous, mieux c'est quelque chose, c'est un dispositif qu'il y a depuis le début, depuis le début, Rose Poussière, où vous recopiez carrément des pages de François, c'est quelque chose qu'on voit.
À part ça, quand on a dit ça, on n'a pas dit, il reste l'esprit, le montage, le rythme, alors ça, ce n'est pas volable. Donc pour moi, le problème du plagiat ne se pose pas, qu'on plagie tout ce qu'on veut, l'esprit de quelqu'un et son style ne se volent pas.
Alors justement, autre chose, c'est la façon dont vous pouvez déclencher l'écriture ou dont vous pouvez justement la rythmer. Vous dites, oui, trois petites toupies qu'il m'arrive de faire tournoyer et j'écris une phrase au rythme aléatoire de leur ballet. À la première qui s'arrête et tombe, je place une virgule. À la deuxième, trois points. Et ma phrase s'achève quand la troisième achève sa virevolte.
Oui, ça fait partie du vous parliez du burlesque, du grotesque où j'étais rentré pour aller sur scène. Là, c'est aussi invraisemblable. Ça, je me suis amusé à le... Oui, je l'ai fait deux ou trois fois, mais enfin, c'est quand même pas ma méthode d'écriture. C'est trop hasardeux, là.
Alors,
D'accord pour l'aléatoire, mais là, c'est poussé quand même
trop loin. C'est poussé un peu loin. Oui, pour autant, il y a quelque chose, une réflexion sur la ponctuation. Parce que ce que l'on peut remarquer, c'est par exemple que le premier récit s'achève sur des points de suspension, le dernier s'achève sur des points de suspension, et tout le texte est rythmé par ces points de suspension, qui n'ont aucun rapport avec ceux qui sont travaillés, par exemple, par Céline. Quelle est la valeur que vous accordez, sachant que vous travaillez sur les fantômes, à cet effet de ponctuation?
Alors, dans les points de suspension qui achèvent la première partie, c'est clairement pour indiquer que c'est inachevé et que je ne suis pas arrivé à le finir, puisque c'est un des thèmes de l'écrivain qui est en train d'écrire et qui n'y arrive pas.
Et c'est le sujet
du deuxième
texte.
Pour le dernier, c'est une ouverture pour laisser ouvert j'aime pas les fins, les points d'orgue et les codas et choses comme ça, donc c'est de laisser les choses un petit peu ouvertes. J'aime beaucoup les fins d'Antonioni, par exemple. On parle de cinéma, j'aime dans... C'est, il me semble, dans les clips, je crois, il y a une fin magnifique. Enfin, c'est une fin qui n'en est pas une, ça s'ouvre, je crois qu'on voit le ciel, ou un début de cheminée. Enfin, Antonioni est très fort pour faire des fins qui sont...
Suspendues.
Hein, non ?
Suspendues, oui.
Suspendues, voilà, c'est ça, c'est le mot, oui. Qui sont suspendues, c'est très fort pour ça. J'aime bien ça, j'aime pas le...
Et à l'intérieur du texte ?
À l'intérieur du texte, je crois que c'est des indécisions que j'ai laissées. J'aime bien les écritures un peu faibles et incertaines, et suspendues aussi. Et donc, c'est pour... je refuse la scansion trop forte, et ça reste... ce sont ces silences dont je parlais quand je n'écris pas, et même quand j'écris, il faut que j'en mette aussi.
Le rendez-vous, la chronique.
Sur la musique de Je vous présente Pamela. C'est ça, hein ? La musique, oui, c'est la musique qu'on entend derrière nous, donc du film, dans le film de Truffaut, La nuit américaine. Parce qu'il va être question de la nouvelle vague, Thomas Clair, pour cette chronique du vendredi.
Oui, et d'une manière un peu particulière, puisque j'ai une hypothèse après la mort du grand Éric Rohmer. Et si la nouvelle vague était un mouvement de droite ? Rappelons, pour lever toute ambiguïté, que nous ne sommes pas sur Radio Courtoisie, nous sommes beaucoup plus polis, mais que nous entendons ici droite par dandisme oppositionnel. D'un point de vue anecdotique, rappelons que les cinéastes de la Nouvelle Vague avaient tous, Jacques Rivette excepté, des tendances droitistes. Chez Rohmer, c'est évident, où le monarchisme du vouvoiement n'a d'égal que celui de l'Anglaise et le Duc. Chez Truffaut, pareillement, qui écrivit dans Art, la revue culturelle de droite, à l'époque où ce n'était pas un oxymoron, ses premiers articles virulents dans le style d'une critique à la hussarde, qui n'excluait pas d'ailleurs de déjeuner avec Lucien Rebattet, ancien critique à Je suis partout. Chez Godard, le fond d'anarchisme de droite est évident dans le personnage d'À bout de souffle, qui, détail peu connu, brandit un exemplaire à la fin du film d'Abracadabra de Maurice Sachs. Passons sur le cas de Claude Chabrol, qui fit ses virées d'étudiants avec un certain Jean-Marie Le Pen, pour nous concentrer sur la dimension esthétique du phénomène. La nouvelle vague est née à la fin des années 50, dans un contexte défavorable, dominé par deux forces conservatrices auxquelles elle s'est opposée. D'une part, le gaullisme et son lot de cinéastes de divertissement, comme Delannoy ou Christian Jacques, stigmatisés par À bout de souffle. La scène où Belmondo et Ginsberg font l'amour pendant le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, qui apparaît comme une sorte de contrepoint au gaullisme. Ou dans Le Petit Soldat, où le héros est un membre de l'OAS. Et puis le communisme et son lot de cinéastes officiels qui vit arriver d'un mauvais œil cette bande de jeunes turcs animés d'un esprit pro-dandy et aussi pro-américain. Et la défense du cinéma hollywoodien, dans ce contexte de guerre froide, était en quelque sorte un signe d'un engagement, disons, réactionnaire dans le champ intellectuel, dominé notamment par la figure de Sartre, très anti-américain. De fait, deux critiques importants, au mauvais sens du terme, usèrent de leur importance pour contrer la nouvelle vague. À gauche, l'épouvantable Georges Sadoul, qui dénonça chez Éric Rohmer, je cite, « un moralisme tempéré, petit bourgeois, un cinéma élitaire qui se mis avec plus ou moins de bonheur à l'écoute des émois et frémissements de l'adolescence. On dirait qu'il décrit du Just Jekin. Et à droite, mais la droite officielle, l'épouvantable Jacques Lourcel, qui s'en prenait au rayon vert, sublime chef-d'œuvre de Rohmer, disant « c'est un au-delà du bâclage, il y a dans ce film de longues fins de plans si vides, si embarrassantes pour le spectateur, qu'elles ont embarrassé évidemment bien plus Lourcel que nous tous ». En fait, formellement, la grande idée de la nouvelle vague fut puriste. C'est de considérer le cinéma comme un art spécifique et non comme un divertissement. Or, cette idée est en quelque sorte aujourd'hui devenue une idée de droite, l'autonomie de l'art n'étant plus en ces temps de postmodernité qu'un vieux souvenir puritain. Du coup, la critique elle-même, pour ces grands inquisiteurs, était un art à part entière, généralement d'exécution. Puisqu'un film devait se juger et non se promouvoir, l'exercice critique devenait nécessairement polémique. Enfin, la nouvelle vague fut rétro dans son principe de création, non pas en regardant en arrière à la manière néoclassique d'un Jean-Pierre Jeunet, mais en détournant les codes de la littérature pour les transférer dans le cinéma. Ces grands modernistes ont puisé leur modernité dans un art antérieur et moins populaire, la littérature, ce qui les a fait passer pour des élitistes cultivés. Comme disait Rohmer, le cinéma ne peut pas se nourrir que de cinéma.
Une réaction par rapport à cette chronique de Benoît Jacquot, qui vous aussi, vous êtes nourri de littérature, dans votre cinéma, dès le début, de Dostoïevski.
Non, mais je suis surtout nourri de la Nouvelle Vague.
Et bien justement, c'est pour ça que je vous demande un commentaire. Sur...
Non, mais tout ça peut se dire, mais quand on l'a dit, on n'a pas dit grand-chose.
Ah, c'est un point, c'est un point mineur, mais ce qui est assez important dans la mesure où les gens se déterminent quand même par une esthétique qui est empruntée d'une certaine façon à une certaine droite, on pourrait dire. Ce qui n'est pas du tout une insulte dans ma bouche.
Ah bon.
Mais si vous l'avez bien compris, puisqu'il y a effectivement une opposition entre le gauchisme radical, disons.
Oui, mais c'est des points historiques, ça relève plus de l'histoire du cinéma.
C'est des points de sensibilité.
Je sais pas, c'est difficile aujourd'hui, en voyant un film de Rohmer, pour quelqu'un qui ne sait rien de tout ça, de décréter que c'est un cinéma de droite. Je vois pas
dans la façon hyper dialoguée, par exemple.
Non, mais que Rohmer soit un homme de droite, ça je le sais, on le sait. Il a écrit même. Il y a un célèbre article dans les cahiers de Rohmer sur Tabou où il écrit littéralement du sang blanc coule dans ses veines noires. C'est complètement. Voilà.
Mais esthétiquement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de contrepoint finalement à un cinéma hyper rythmé, hyper visualiste, qui justement fait contrepoint de cette manière-là.
Oui, mais en même temps, ce qu'on appelait les Hitchcock-Hawksiens, Hitchcock et Hawks, ce ne sont pas des...
Hitchcock est très puritain, c'est un puritain absolu.
Bon, d'accord. Bon, enfin.
Jean-Jacques Schul.
Je pense que dès qu'on accède à ce qu'on appelle l'univers des formes ou quelque chose d'artistique où ça décolle, à ce moment-là, il n'y a plus droite ou gauche. On peut pas dire que Goya est de droite ou Homer de gauche. Enfin, ça a plus de sens à ce moment-là. Et quelqu'un comme Godard en particulier, les films de Godard ne sont ni de droite ni de gauche. L'esthétique prime tout là, à ce moment-là. Et la politique n'a plus tellement d'importance.
Et Abracadabra, c'est pas mal, hein. Maurice Sachs, c'est intéressant.
Je ne vous le fais pas dire.
Il a signé, il a signé un essai sur Maurice Sachs, donc en effet...
Ah bon
ouais.
Ah ouais, très bien. Très bien.
Plateau 2 avec Benoît Jacquot et toujours Jean-Jacques Schulz. Benoît Jacquot, cinéaste, on citera votre dernier film Villa Amalia. C'était la 5e collaboration avec Isabelle Huppert. Plusieurs mises en scène de théâtre pour la télévision. Et c'était hier soir la première de Werther, l'opéra de Jules Massenet, dont vous signez la mise en scène à l'Opéra Bastille avec un casting prestigieux. Michel Plasson à la direction d'orchestre. Le ténor star Jonas Kaufmann dans le rôle titre. À ses côtés, il y avait Sophie Koch. Coche en Charlotte.
Ah oui, ça fait deux cheux pour un ouais, dernier, c'est particulièrement difficile à prononcer.
Et
c'est une production qu'on peut voir présentée jusqu'au 4 février à l'Opéra Bastille. On était la première hier soir avec la soprane Anne-Catherine Gillet dans le rôle de Sophie, c'est la petite sœur de Charlotte, une adolescente qui est un peu la seule part féminine de joie et d'innocence chez Werther dans cet opéra. On avait pu l'entendre, Anne-Catherine Gillet, au début de la saison de l'Opéra Garnier, dans Mireille, notamment dans le rôle de Vincenette. On écoute Anne-Catherine Gillet qui interprète Sophie, accompagnée au piano de Chloé Gisalberti. Werther, acte 2, c'est l'ère du gai soleil. Sophie invite Werther au premier menuet, puis il ignorera l'invitation malgré la beauté du chant. On l'écoute en direct sur France Culture. Anne-Catherine Gillet, qui interprète Sophie, accompagnée au piano de Chloé Gisalberti. C'est donc, bien évidemment, un extrait de Werther.
On peut voir donc actuellement à l'Opéra Bastille. Werther, la partition de Jules Massenet, 1892, avec en sous-texte « Les souffrances du jeune Werther de Goethe », drame lyrique, quatre tableaux, l'histoire en deux mots, une passion contrariée entre Werther et Charlotte qui en a épousé un autre. La phrase va revenir plusieurs fois. C'est aussi donc l'histoire d'une pathologie, d'une obsession, puisque Werther reviendra plusieurs fois sur cette phrase. Un autre, son époux, un autre et son époux, à quelques mois de différence. Benoît Jacquot, on a pu voir au cinéma donc Tosca, que vous aviez filmé à l'époque. On a pu lire récemment que vous rêveriez de mettre en scène Barbe Bleue de Bartok. Quel est le lien qui peut bien vous unir avec la musique de Massenet?
Aucun.
Sérieux?
A priori, aucun.
A priori, aucun.
Non.
Une défiance, même, au départ?
Bon, une défiance, j'en ai pas. Non, mais c'est une part de la musique à laquelle, a priori, j'étais plutôt étranger. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis d'abord metteur en scène, c'est-à-dire que quand des complices, des amis ou des gens bienveillants me proposent de faire quelque chose. Avec assez d'insistance et de complicité, mon premier réflexe, c'est de dire oui, pas non.
Alors, quelles qualités vous avez pu quand même trouver donc dans cette partition
en ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut avoir des préjugés ou des idées comme ça qui viennent de ceci ou cela.
Votre enfance notamment, par exemple.
Non, moi, dans mon enfance, ma grand-mère me chantait des airs de Massenet. Elle me chantait l'air des larmes ou voilà. En fait, c'est de la méconnaissance parce que à travailler cette musique, et justement, j'ai appris, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, je me suis mis à l'aimer réellement, quoi. Mais c'était un peu la même chose avec Tosca.
Jean-Jacques Choulet, est-ce que vous avez la même défiance, celle que vous avez manifestée par rapport au théâtre, par rapport à l'opéra ?
Alors, y a un problème.
Avec ces gens affreusement vivants sur scène et qui crient.
Non, mais c'est traditionnellement un problème des écrivains avec la musique, avec l'art lyrique et la musique en général. Si on prend les écrivains, il y a un gros problème. Ils sont ou sourds ou alors sourds à la musique. Ils ne supportent pas comme Kafka, Breton et je crois Nabokov aussi. Il y a un gros problème là. Et il y a Joyce, évidemment, alors qu'il est le grand écrivain complètement ouvert à l'art lyrique, avec le personnage de Molly qui chante, etc. Lui-même rêvait de chanter, donc là, même vers l'opéra. Mais autrement, si on prend les écrivains, c'est assez curieux. Proust avait très mauvais goût, c'était Wagner. Ses goûts n'étaient pas très bons, je trouve, en musique. Enfin, il y a eu Stravinsky, il ne s'y est absolument pas intéressé. Il y a les poètes, il y a Baudelaire... la musique, mais il se trompe encore, c'est Wagner, c'est une des fautes de goût de Baudelaire. Et moi, alors, en ce qui me concerne, je m'étais amusé quand j'avais écrit ce petit livre, là, Ingrid Cavan, puisque c'était Ingrid Cavan est une chanteuse. Je m'étais amusé à voir, à essayer de repérer dans l'histoire de la littérature les chanteuses dans les livres. Il y en a très peu. Il y a les sirènes dans Homère, dans l'Odyssée. C'est pas exhaustif. Enfin, il y a très très peu. Il y a donc Molly Bloom. Il y a Joséphine, la cantatrice de Kafka. Et puis je sais pas, très très peu. Donc il y a manifestement un problème. Les écrivains sont un problème avec la musique.
Thomas Clerc, je vous vois intervenir.
Oui, il y a une scène marquante dans Ingrid Cavan, néanmoins, qui se passe dans mes souvenirs à l'opéra, où le personnage voit une femme de dos, sur la chevelure. Il y a tout un fantasme sur la chevelure blonde.
Ingrid Cavan.
Oui, oui.
C'est une spectatrice qui voit ça. Oui,
c'est une scène assez marquante.
Je m'étais amusé. D'ailleurs, j'ai essayé de faire une scène un peu pop, burlesque, où il y avait la Castafiore et Homer, enfin, j'avais télescopé les deux. Oui, c'est amusant, mais c'est très curieux, cette histoire des écrivains et de l'art lyrique. Il n'y a pas de...
Anne-Catherine Gillet, quel est votre rapport, vous, à la partition de Massenet? Je sais que vous avez chanté il y a peu de temps un des rôles préférés de Benoît Jacquot, qui est Popée, puisque je crois que le couronnement de Popée, ça, par contre, ça fait partie de vos préférences, ouais. Benoît Jacquot.
L'éditeur de Jean-Jacques Choule est un mélomane extrêmement averti.
Oui, il y a Solers. Oui, en effet. Il y a qui a écrit un Mozart. Oui, oui. Alors il y a Philippe, oui, qui est un écrivain et pas des moindres. Et effectivement, et Joycien, et Joyce, oui, bien sûr. Mais c'est le catholicisme de Solers, de Joyce.
Ça a à voir avec le catholicisme.
Oui, le grand art lyrique a à voir, bien sûr, avec le catholicisme, non?
Benoît Jacquot,
oui, et donc ils ont l'oreille pour ça, oui, Solers, bien sûr, oui.
Alors Anne-Catherine Gillet, catholique, pas catholique, on ne saura peut-être pas, mais concernant Massenet.
Non, moi j'aime la musique française en général, bien qu'étant belge, mais je crois que l'un ne...
Ce qui ne gâte rien.
N'interdit pas l'autre. Et c'est vrai que cette musique de Massenet m'a accompagnée déjà depuis un certain temps, parce que c'est la quatrième fois que je peux chanter le rôle de Sophie, et... La première fois, c'était il y a 10 ans. Donc, non, c'est spécial, parce que c'est vrai que ce sont des histoires qui, somme toute, ce ne sont pas des grands rois, mais ce sont peut-être des sentiments humains. Et c'est vrai que c'est fait de rien, mais à la fois, c'est très sensible. Et ça me touche beaucoup.
Mais des sentiments humains que vous avez voulu laisser dans leur époque, hein, Benoît Jacquot. Ça, c'est important. Donc, une mise en scène, on pourrait dire, d'une austérité protestante dans les décors et les costumes d'époque. Oui, on pourrait dire. Un dépouillement magnifié par un travail de lumière. Et ce qui est surtout remarquable, c'est l'isolement que vous avez pratiqué des personnages. Mais en cela, complètement en écho à la partition et au livret. Et surtout, une stratégie du positionnement des chanteurs. Pas forcément aisée. vous les mettez en fond de scène ou vous les mettez près de la fosse. Comment vous avez travaillé justement le fait de les mettre, c'est pas en danger, mais vraiment de les mettre dans des positions ou des, un statut sur la scène de façon inconfortable?
Bah, déjà, j'ai pensé les décors de façon inconfortable. Il n'y a jamais rien où s'asseoir. Il y a un salon, par exemple, sans fauteuil ni chaise. C'est comme le couteau sans lame ni manche de Lichtenberg. Non, ouais. Donc ça crée immédiatement un embarras. Et tous les décors obéissent à un système de pente assez raide par rapport au plan ordinaire des scènes d'opéra.
Et même des scènes de ballet, en fait. Ouais. Parce que même au ballet, la pente n'est pas aussi accentuée bah voilà. que
chez vous. Donc on se trouve, par exemple, au troisième acte avec un salon donc sans fauteuil, sans rien où s'asseoir, et dont le parquet est en pente assez inclinée, ce qui crée déjà une sorte d'inconfort, de trouble général.
Et pourquoi, justement, fallait-il créer cet inconfort, même après, dans la position des acteurs, des chanteurs sur scène?
Parce que ce qui est intéressant dans ce drame, c'est justement ce trouble constant, cette espèce de déchirure quasiment originelle chez chacun, on dirait. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, que j'avais envie de mettre en scène. Mettre en scène, littéralement.
Anne-Catherine Ginet, il y a un endroit sur scène où vous vous sentez moins forte ou plus en danger qu'ailleurs?
Mais c'est vrai que très, très devant la fosse, c'est vrai que, justement, on se sent vraiment tout nu, là, pour le coup.
Voilà, je les ai beaucoup, beaucoup amenés et je les ai beaucoup traînés, presque tous, en tout cas tous ceux qui ont des airs. Le plus près possible de la fosse, de ce qu'on appelle justement la fosse, et donc du public et du chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'à certains moments, qui sont ces moments d'air, d'air, je leur demande non pas de faire semblant de continuer à être dans une action, plus ou moins supposée, mais de venir vraiment au-devant et de se montrer chantant. Et ça me paraît beaucoup plus dramatique et beaucoup plus fort que ce qui se passe le plus souvent, à savoir que il y a une espèce de... Parce que le livret de Werther, ça a beau venir de Goethe, c'est quand même pas quelque chose
d'inoubliable. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre vraiment les personnages au bord du précipice à chaque fois.
Et du coup, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me servir, au lieu de me servir du livret, c'est-à-dire de mettre en scène ce livret, c'est réellement de me servir de la musique telle qu'elle est structurée, telle qu'elle est développée et telle qu'elle est chantée, au bout du compte, comme du livret authentique, d'un scénario, de ce qui serait le scénario d'un film.
Alors justement, je vais faire le lien avec le cinéaste qui arrive à l'opéra. Par exemple, je pense, de nombreux cinéastes ont monté des mises en scène d'opéra. Récemment, on avait pu voir Haneke qui avait monté Don Juan, donc ça c'était à l'Opéra Garnier. On est toujours tenté de lire la mise en scène comme une prolongation du geste du cinéaste. Et là, dans le quatrième tableau, on peut dire quand même qu'il y a un effet cinématographique. L'avancée, ou plutôt la descente, puisque tout est en pente dans cet opéra, l'avancée depuis le fond jusqu'à l'avant-scène de la chambre de Werther comme un travelling avant. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si je vous demandais si c'est un zoom ou un travelling, mais c'est que est-ce que cela ne pointe pas une dimension cinématique de la musique de Massenet à ce moment-là? Parce que ça ne chante pas.
À franchement parler, non, vraiment, j'y ai pas pensé, mais à franchement parler aussi, répète, je mets en scène et je ne pense pas. Voilà. Mais vraiment, je ne pense pas. Je suis probablement, contrairement à ce que d'aucuns croient, le metteur en scène français, en tout cas, le moins intellectuel du paysage.
Voilà. On n'arrive pas trop à y croire quand même.
C'est comme ça, je vous le dis, je ne pense pas. Mais demandez-leur si je leur fais des laïus quand je les dirige, si je leur fais des théories et avec des arguments et qui viendraient de ci, de là. Pas du tout, je leur dis des trucs, je crois, extrêmement concrets, le plus précis possible et qui répondent à des nuances qui sont celles même du moment qui a joué à interpréter. Jamais des abracadabras théorico-fumeux.
Alors vous allez réfuter aussi la question d'inconscient. Par exemple, Jean-Michel Frodon, dans les cas du cinéma, vous définissez comme un cinéaste qui croit très fort au réel, très fort à la littérature et très fort à l'inconscient. J'aimerais bien revenir sur ces derniers mots, puisque est-ce que la psychanalyse peut être une clé de travail? Ça, vous nous direz peut-être que non, mais par exemple, il y a une phrase de Werther qui
va revenir deux fois. Vous avez réalisé quand même un documentaire sur Lacan.
Oui, au passage. Mais il y a une phrase de Werther qui va revenir.
C'est pas un documentaire d'ailleurs, c'est quasiment un film dont il a écrit le scénario et qu'il a interprété. Bon. Ouais.
Quel interprète ?
Qui avait admirable.
Le grand Mounet Sully, la grande tradition des siècles, un acteur extraordinaire.
Ouais. Et Werther, par exemple, apparaît comme un personnage obsessionnel, puisqu'on le voit à la fin de l'acte 1 finir par un autre, son époux. Dans l'acte 2, trois mois ont passé, et la première chose qu'il dit, c'est la même chose, un autre et son époux.
Mais ça, c'est de la musique, ça. Il chante, ça. Il ne le dit pas, il le chante. Donc, il le rechante. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une musique qui fait souvent retour sur elle-même, comme ça, en tout cas pour ce qui est de Werther.
Oui, mais ça montre, ça dit aussi un personnage qui est quand même bloqué sur une situation et assez seul sur son obsession.
Il est à peu près comme tous les hommes, c'est pas des femmes qu'il aime, c'est des images de femmes. Voilà. Alors après, vous pouvez... voilà. Alors qu'elle... Elle l'aime, lui. Et du coup, il n'y a pas de rapport sexuel, pour reprendre.
Pour reprendre une certaine phrase.
Jean-Jacques Choule. J'aimerais, ça déborde un peu du cadre de l'opéra, mais puisque Benoît est là, j'aimerais le faire parler ou le questionner sur quelque chose qui me... Je suis très fasciné par, dans l'histoire du cinéma, c'est au cinéaste que je parle, je suis très fasciné dans l'histoire du cinéma de ce couple bien connu, du metteur en scène et de l'actrice, surtout quand ils vivent ensemble. Enfin, on a les grands exemples depuis Griffith et Lillian Gish. Enfin, je ne sais pas si c'était ensemble, mais ensuite Von Sternberg et Marlène, Chaplin et Paulette Goddard, et puis
Truffaut,
Mark Bergman, etc. Je m'arrête avec Mark Bergman et Liv Ullmann. Et c'est quelque chose qui me fascine énormément. Ces gens qui, dans l'intimité, mènent une vie très réaliste. Et ensuite, il y a ce phénomène comparable un peu, enfin, le cinéma a la même date de naissance à peu près que Charcot et les hystériques. Et donc, on peut penser à ça qu'ensuite, il y a ce rapport, enfin, de mettre aux malades un petit peu. Et quelle est la part d'ailleurs des deux? Il y a cette phrase de Sternberg dans ses mémoires, Les souvenirs d'un montreur d'ombre, où il s'interroge, où on l'interroge sur, beaucoup de gens l'ont interrogé sur Marlène, et il dit mes rapports avec Madame Dietrich, il prend un tour, je les ai racontés en 5 films, je sais pas, et une caméra. Donc il veut, donc ces rapports sont relatés, on peut les lire en filigrane ou les décrypter dans ses films. Benoît est quelqu'un qui a vécu avec des différentes actrices et les a fait tourner en même temps. Dans quel ordre? Je ne sais pas s'il a vécu avant ou pas, ça, ce n'est pas la question.
C'est
quelque chose qui m'intéresse et me fascine beaucoup. Ce n'est pas de l'indiscrétion ou quoi. Je suis très, très fasciné par ça. Je l'ai un peu abordé dans Ingrid Cavan rapidement. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup, qu'on puisse passer du moment où on fait son lit, où on sort du lit, et tout d'un coup être dans ce rapport très étrange avec une caméra, avec la même personne. Je me rappelle de Jean-Luc Godard lors d'un tournage d'Une femme est une femme, disant à Anna Karina, qui demandait de refaire un lit, mais c'est pas comme ça que tu fais le lit à la maison. Ce sont des choses que personnellement me fascinent beaucoup. Donc, si tu peux dire 2-3 mots là-dessus, s'il te plaît.
Benoît Jacquot.
J'ai la chance de te rencontrer ce soir. On s'est pas vu depuis un certain temps.
Ouais. Il y a quelque chose de, pour certains cinéastes en tout cas, dont je crois être, il y a quelque chose de tellement fort dans la tentative de filmer. Quelqu'une, si c'est un homme avec une actrice, que ça ne peut que déborder, voilà, d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense pas qu'on fasse son lit, comme tu dis, de la même façon si d'abord, faudrait encore faire son lit. Moi, j'ai jamais fait mon lit. Je veux dire que personne ne l'a fait pour moi.
Voilà, parce que Anna Karina, manifestement, le faisait pour Jean-Luc Godard.
J'ai toujours laissé mon lit défait, moi. Mais
femme bien heureuse avec Benoît Jacquot, pas de lit à faire.
Non, mais sorti de là, on fait pas les choses de la même façon avec une femme avec qui on vit et qui est en même temps son interprète dans un film ou dans plusieurs films la plupart du temps. Pas du tout de la même façon. Mais rien, je veux dire, dans même les choses les plus intimes, on ne les fait pas de la même
pareil,
façon.
Derrière une caméra que devant.
Et voilà.
Alors autre chose.
C'est ça qui m'intéresse.
Non, alors, juste Jean-Jacques, la conversation va devoir se poursuivre off. Ouais. Parce que tout d'abord, on doit retrouver. Voilà. Moi, on continuera tout à l'heure.
Vous avez le studio pour vous. Sophie de Werther, interprétée par Anne-Catherine Gillet, accompagnée au piano par Chloé Gisalberti. Werther, acte 3, c'est l'air. Ah, le rire est béni, joyeux, léger, sonore. On écoute en direct Anne-Catherine Gillet sur France Culture.
Bonjour, grande sœur, je viens aux nouvelles. Albert est absent, on ne te voit plus, et le père est très mécontent.
Cet enfant, tout me rappelle à lui, répondra Charlotte. C'était Anne-Catherine Gillet à l'affiche de Werther. C'est jusqu'au 4 février à l'Opéra Bastille à Paris.